Pour moi, les choses, elles ont vraiment commencé dans le Salar d'Uyuni en Bolivie. Moi, je m'appelle Thomas Derig, j'ai 22 ans, je suis étudiant. Et pour moi, cette première traversée dans un désert de sel, c'était vraiment une révélation. J'avais jamais fait ça de ma vie, c'était ma première expédition. Et c'est ce qui a motivé mon départ dans un deuxième désert de sel, le Salar d'Atacama. Et cette deuxième traversée, 9 jours après la première... La première était en Bolivie, la deuxième au Chili. C'était surprenant, c'était un peu l'inattendu. Et en fait, ça a été même plus déroutant que la première traversée.
Vous écoutez Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Deux fois par mois, je reçois un ou une invitée qui se raconte au travers d'un voyage qui l'a marqué. Dans cet épisode... Thomas raconte le Chili. Avec lui, on a parlé de désert, de destin et de Sylvain Tesson.
J'ai bourlingué à travers le monde. En fait, je revenais du Salar d'Uyuni. J'avais fait 140 km dans le plus grand désert de sel du monde pendant 6 jours. Donc pour moi, à 20 ans, passer 6 jours dans un désert, c'était vraiment surprenant, c'était déroutant. Et 9 jours après, je m'ennuyais beaucoup. Je me disais que l'été pouvait pas continuer comme ça. Je me voyais mal juste reprendre la vie de touriste standard avec des hôtels, des bus. Et donc, je me disais qu'il fallait que je reparte. Et du coup, je suis reparti dans le Salar d'Atacama. Je me disais bêtement que le Salar d'Atacama étant plus petit et proposant une traversée d'une 90 km, une centaine de kilomètres, ça allait être plus simple que le Salar d'Uyuni qui est plus grand, qui est plus vaste, qui est le plus grand désert de sel du monde. Et en fait, le Salar d'Uyuni, j'ai mis des mois à préparer cette expédition en France en amont. Et le Salar d'Atacama, j'avais rien préparé du tout. J'ai décidé ça dans une chambre d'hôtel à Uyuni après être sorti du premier désert. Et donc, j'arrive à Atacama un peu confiant, naïf, bête. Ouais, finalement, c'était un peu bête, mais c'était génial en même temps. C'était assez excitant de me dire que cette traversée-là, j'allais la mener de manière spontanée, sans particulière préparation. Et donc, depuis Uyuni, je prends un bus pour la ville de San Pedro de Atacama. J'arrive dans la ville. Déjà, le décor est complètement différent. En Bolivie, c'est vraiment... Ça fait un peu bidonville, un peu ghetto. On est dans des ruelles où il y a des chiens errants, il y a des poubelles qui traînent. C'est vraiment un des pays les plus pauvres d'Amérique du Sud. Et quand on arrive au Chili, à San Pedro de Atacama, qui est une ville très touristique et qui est un petit oasis au milieu du désert, c'est vraiment déjà un changement de décor total. Ensuite, le Salar d'Uyuni ressemble vraiment à un paysage lunaire. Il est tout blanc. La nuit, il fait assez froid. Le Salar d'Atacama est plus aride. Finalement, il est rouge. Les terres sont très, très ocres. C'est magnifique, et on appelle ça un salar parce que les terres sont chargées en sel. Mais comme c'est dans une des régions les plus arides du monde, il y a très peu de pluie. Quand il pleut, ça s'évapore très vite. Du coup, le salar n'est pas inondé comme le Salar d'Uyuni la moitié de l'année. Il n'est pas nivelé et nettoyé. Donc, il n'est pas tout blanc et tout plat et tout lisse. Et en fait, dedans, il est chargé de croûtes de sel. Il y a des croûtes de sel, c'est comme des sortes de coraux morts. C'est du sel, en fait. C'est une grande nappe qui s'est asséchée, ça a laissé un grand dépôt salin. Mais ce dépôt, il n'est pas uniforme, donc on trouve que cette espèce de corail qui est cassant, coupant, et qui va vraiment m'entraver le parcours pendant une semaine. Et ça, je m'y attendais pas. Moi, j'ai bêtement pensé que c'était un désert assez plat, assez lisse, comme à Uyuni. Et donc, je me lance un matin, je pars de ma chambre d'hôtel, comme j'avais fait à Uyuni. Je repars dans le désert de sel. J'ai mon sac à dos, à nouveau 30 kilos, et je marche comme ça avec mes bâtons de marche. C'est assez génial comme moment, c'est assez excitant. Et petit à petit, je sors de la ville, je vais progressivement vers le désert. Et dans le désert, c'est à nouveau ce sentiment que je retrouve, cette liberté, cet espace pour moi. Donc je continue, les 30 premiers kilomètres entre San Pedro de Atacama et le désert, c'est des lagunes salées, assez touristiques. Il y a la Laguna Cejar, il y a deux petits bassins qui forment ce qu'on appelle les Ojos del Salar. Ça ressemble à deux yeux plantés dans le désert. Et donc, je marche comme ça, le long d'une route. Il y a des gens qui comprennent pas trop ce que je fais, pourquoi je vais à pied vers le désert, où je me dirige, où je dors ce soir. Donc, les gens s'arrêtent et me proposent spontanément de me prendre en stop. Moi, je refuse, ça ne m'intéresse pas. Donc, je continue. Je me rends assez vite compte que j'ai déjà beaucoup plus soif qu'à Uyuni. J'ai vraiment très soif, il fait chaud, l'air est très très sec. Mais je prends sur moi et j'essaie d'appliquer un petit peu la même méthode qu'en Bolivie. Donc, j'avance, j'avance. Et le premier soir, j'arrive au niveau des lagunes et je passe la nuit là. Et alors, bêtement, le premier soir, je mets ma lampe frontale dans ma tente pour que ça l'éclaire. Et il y a des gardes qui la repèrent très loin parce qu'en fait, le salar d'Atacama est un super observatoire stellaire. On peut voir plein d'étoiles. C'est une des zones dans le monde où il y a le moins de pollution visuelle. Donc finalement, quand il y a une tente éclairée en pleine nuit, on la voit très très bien. C'est un beau sapin de Noël. Donc moi, je fais mes photos de ma tente et il y a des gardes qui arrivent et qui me disent « Écoute, faut que tu t'en ailles. On est en pleine nuit. » Et je leur dis « Ben ouais, mais je sais pas où aller moi. Où je vais dormir là. La ville, elle est à 30 kilomètres. » J'ai passé la journée à m'en éloigner, donc je vais pas y retourner. Et je leur promets de passer la nuit sagement, pas faire de feu, de partir tôt, de pas laisser mes déchets. Ils finissent par me laisser rester là par pitié parce qu'ils savent pas vraiment où m'emmener ou qu'est-ce que je peux faire. Et en fait, le lendemain, au lieu de retourner vers la ville, là, je m'enfonce vraiment dans le désert. Et l'aventure, elle commence vraiment le deuxième jour quand je sors de cette zone touristique. Et là, je vais vraiment dans l'étendue. Et progressivement, je commence à m'enfoncer. Et j'arrive au bout du deuxième ou troisième jour, en milieu d'après-midi, sur ces croûtes de sel. Je m'y attendais pas. Et donc là, je comprends que ça va être plus compliqué, mais j'ai pas envie de reculer. Il faut imaginer que 30 kilos sur le dos, sur des coraux sur lesquels on marche en équilibre, on s'équilibre avec les bâtons. Des fois, ça casse sous les pieds. Donc d'un seul coup, la cheville, elle se prend entre des coraux. On chute. Et tout le sac nous fait pencher vers l'avant. Et il y a certaines matinées où je mettais 5 heures à faire 4 km. Et je tombais 4 ou 5 fois. Je tombais au moins une fois par heure. Et le quatrième jour, il y a un moment où je chute. Et en fait, je me rattrape par réflexe avec mes mains. Et il y a mon avant-bras qui passe au travers d'un coraux. Et j'ai l'avant-bras qui est entaillé. Et là, je regarde mon bras. Et en fait, c'est une égratignure. C'est pas grave. Mais ça me rappelle à la réalité. C'est que je regarde l'entaille et je me dis qu'à moins d'un centimètre, c'était mes veines qui prenaient. Et j'ai pas de moyen de communication. Comme dans le salar d'Uyuni, j'ai décidé d'être sans moyen de communication. Donc j'ai mon téléphone français, mais j'ai pas de réseau, pas d'internet, pas de téléphone satellite, pas de tracker, pas de balise. Je sais qu'en cas de problème, je suis livré à moi-même. Et là, ce qui me fait le plus peur, c'est pas de me perdre, c'est pas de ne pas arriver au bout, mais c'est tout simplement de me casser la cheville ou de m'entailler une veine sur des coraux. Donc ça commence à être un peu stressant et en fait je me rends compte que je vais beaucoup plus lentement que prévu, donc je mets plus de temps à avancer, j'ai des réserves d'eau qui sont finies, qui font qu'à un moment donné, quand j'en aurai plus, je devrais être sorti, ou alors mon espérance de vie elle s'arrête à peut-être 2 jours. 2 jours dans une zone qui est pas non plus immense, ça va, on a le temps de se retourner, mais voilà, c'est quand même une aventure qu'il faut mener comme prévu. On n'a pas trop d'imprévus quand on est contraint par l'eau. Donc j'avance, je fais mon chemin sur les coraux pendant des heures. Il fait chaud, il fait sec. Le paysage est magnifique. J'ai tout l'espace pour moi. Je passe des nuits géniales. Je suis encore plus excité que dans le salar d'Uyuni où j'ai ce bonheur de retrouver la tente, le désert, le silence. Et en même temps, il y a une appréhension qui est là que j'avais pas à Uyuni. En Bolivie, j'avais le plaisir de marcher tranquillement dans une étendue plane. Là, voilà, c'est plus un combat. J'ai l'impression d'être face à une cohorte des éléments. L'air est beaucoup plus sec. J'ai beaucoup plus de difficultés à gérer le fait de m'abstenir de boire. Puis j'avais prévu 3 litres d'eau par jour. J'ai 1 litre qui est destiné à réhydrater mes plats lyophilisés. J'en ai 3 par jour, donc j'utilise en moyenne 300 millilitres par plat. Donc ça me consomme 900 millilitres. Et j'ai 2 litres à boire pour toute la journée. 2 litres, quand on marche 10 heures par jour, ça fait 1 litre pour une demi-journée de marche. Dans une des zones les plus arides du monde, c'est rien du tout. C'est en boire 1 demi-litre toutes les 2 heures, toutes les 3 heures, quoi. C'est pas suffisant. Donc ça commence un peu à m'inquiéter. Et il y a une zone qui s'appelle la Laguna Chaxa, où il y a une réserve de flamants roses. Elle est située dans le centre, dans la partie est, au milieu du désert. Et quand j'arrive à peu près au centre du salar, Elle est à peu près à 15 km de moi. J'ai le choix entre essayer de la rejoindre et arrêter cette aventure, ou alors continuer sur des coraux de sel. Et le problème, c'est que comme j'ai pas étudié le terrain, je sais pas jusqu'où ils s'étendent, je sais pas combien de temps je vais devoir passer dessus, et je me rends compte qu'au rythme auquel je vais mettre plus de 2 jours. Et il me reste que 2 jours d'eau sur moi. Là, je suis au milieu du désert, on est le 3e jour, et là, j'ai une décision à prendre. Et alors, il y a un truc très mitigé en moi. Il y a une partie de moi qui me dit, vas-y, continue, ça vaut vraiment la peine. Il y a une autre partie de moi qui, un truc un peu plus animal, peut-être le cerveau reptilien, qui me dit, non, abandonne, comme ça, tu consommes toute ton eau pour la 2e journée maintenant, vu qu'il te restera une journée de marche, si t'arrêtes, et tu consommes toutes tes réserves de nourriture aussi. Et en fait, tu te fais un festin royal dans la tente, et tu gardes juste de quoi partir pour une journée supplémentaire, et voilà. Et donc, je passe la nuit, comme ça, un petit peu dans l'entre-deux de ces deux choix, et je me dis, vaut mieux choisir demain matin quand je serai reposé et prendre une décision rationnelle, pas une décision basée sur la fatigue. Je pense que c'est le meilleur choix que j'ai fait. Et en fait, pendant la nuit, ce qui est assez fou, c'est que j'ai rêvé que j'étais en train de liquider toutes mes rations. Et je me suis réveillé 2 ou 3 fois en sueur, en panique, en étant persuadé que j'avais plus d'eau, j'avais plus de nourriture, que j'avais tout mangé, parce que je me voyais vraiment dans mes rêves, en train de manger et de boire. Avec ma main, je cherchais dans ma tente, ma poche à eau, et je vérifiais que l'eau était là. Et je me disais, en sentant mon eau, ah, c'est bon, t'as encore gardé tes réserves. Parce que pour moi, à l'instant où j'entamais mes réserves, je savais que de toute façon, je pouvais plus aller au bout. C'était déjà juste ce qui me restait. Donc pour moi, c'était en quelque sorte arrêter l'aventure nette, y mettre fin d'un seul coup. Je me suis dit, ouais, c'est mieux d'attendre le matin, mais toute la nuit, ça a été un petit peu stressant. Et en fait, au matin, ce qui est assez fou, c'est que pris de fatigue, je m'étais pas rendu compte qu'en fait, j'avais dormi à quelques mètres d'un sentier plat qui me permettait d'aller au bout de l'aventure. Donc, quelle déception ça aurait été de liquider mes rations et de me rendre compte le lendemain matin que la solution, elle était à côté de moi. Et en fait, dans les coraux de sel, on marche, on patauge un petit peu, on marche en équilibre, ça craque, ça casse sous les pieds, on tombe. Mais moi, ce qui me faisait aussi très peur, c'était de passer la nuit dedans. En fin de journée, je regardais à l'horizon, je commençais à chercher une surface aplanie et je regardais s'il y avait une petite irrégularité dans le paysage. Sur les croûtes de sel, je peux pas poser la tente, je peux pas m'allonger, je peux pas non plus mettre en duvet, c'est un duvet en plume, il serait forcément entaillé de partout par les croûtes. Donc voilà, j'aurais été obligé de passer la nuit assis entre les croûtes, peut-être avec mon manteau, donc ça aurait été une nuit pas très sympa. Et du coup, mon but, c'était vraiment de trouver un endroit plat pour y passer la nuit. Et finalement, l'horizon, c'est assez trompeur. On peut pas évaluer de distance. Des fois, je voyais 360 degrés de croûte de sel autour de moi et je savais pas juste où se trouvait la fin. Et en fait, ça fonctionnait un peu par champ. Et je tombais dans un champ d'astéroïdes de croûte de sel. J'en sortais, il y avait une petite zone tranquille sur quelques kilomètres et puis je repartais dans une autre zone. Ça, c'était un petit peu le plus compliqué, c'était de pas savoir, de pas bien connaître le terrain, tout le temps être dans l'inquiétude de me dire où je vais dormir, quand est-ce que je vais sortir de cette zone, quand est-ce que je vais retrouver un terrain plat. Et voilà, après quelques jours, j'arrive à ce terrain, ce sentier plat, qui est en fait relié une exploitation minière. En fait, le salar d'Atacama est une zone exploitée commercialement. Il y a une entreprise qui utilise le sel et le lithium. Et du coup, il y a quelques zones d'exploitation. Et un soir, je cherchais ma zone aplanie, le 3e soir. Et c'est là où je me mets justement sur ce terrain. Et en fait, il y avait un sentier qui relie cette exploitation de sel à des villages environnants à la sortie du désert. Donc je comprends que via ce sentier, je vais pouvoir sortir et surtout gagner du temps, aller beaucoup plus vite que ces derniers jours. Et récupérer mon retard. Et donc je marche, le 4e matin, j'avance, et je récupère mon retard, certes, mais je marche tellement qu'en fait j'ai soif, et je bois, et je continue de boire, et j'entame les réserves de la 5e journée, et je me dis, c'est pas grave, tu rattrapes ton retard, et puis au pire, la dernière journée, tu la feras avec un peu moins d'eau, mais l'important, l'urgence, et là, c'est de s'éloigner du centre du désert, et d'aller vers la sortie. Et en fait, le dernier soir, je pose le camp et j'utilise mes rations pour réhydrater mon plat, mon dîner, je bois un petit peu et je garde le reste pour le lendemain, la dernière journée. Et le bilan, c'est qu'il me reste 1 litre d'eau pour faire 20 km. Je commence à être vraiment déshydraté. J'ai la gorge sèche, les lèvres un peu craquelées et j'ai une douleur au pied atroce. J'ai une inflammation du pied. quand je vais sortir du désert, en fait, je vais avoir tout le plat de mon pied complètement gonflé, le dessus. Et pendant plusieurs jours, je vais devoir mettre des crèmes inflammatoires. Et donc, cette dernière soirée, elle est un peu compliquée. Mais je suis assez confiant, je suis assez content. Je me dis que j'ai fait le plus gros, que vraiment les péripéties étaient derrière moi et que là, on est sur les dernières heures de la traversée. Et je marche le lendemain matin, je pars à l'aube en me disant qu'en marchant de nuit, j'aurai moins soif, il fera moins chaud. Et donc, les 20 premiers kilomètres, je les entame bien, j'avance. Et quand le soleil se lève, au bout d'une heure et demie, je commence à reboire. Et quand j'arrive à terme de mon aventure, au 20e kilomètre, j'ai fini mon eau. Donc, mon eau m'a servi comme prévu. Le seul problème, c'est que j'arrive au milieu d'un endroit où il n'y a rien. En fait, je suis à la sortie du désert, mais finalement, sur l'altiplano et dans le désert d'Atacama, qui est une zone immense, le salar d'Atacama, finalement, il n'y a pas vraiment de distinction entre le désert et la sortie. Il y a juste des espaces vierges avec des villages à certains endroits. Donc, j'arrive dans une zone où il n'y a rien. Tout au sud, là où il y a la Laguna La Punta, il y a d'autres lagunes aussi. Et donc, je me retrouve à traverser une lagune à pied. Je mets les pieds dans l'eau. Au début, je tente le truc pieds nus pour que mes chaussures restent sèches. Et ça fait super mal aux pieds parce que du coup, j'ai les pieds nus à vivre sur les coraux sous l'eau. Et donc, je me dis, bon, j'y vais avec les chaussures de rando, mais je remets pas mes chaussettes pour au moins qu'elles soient sèches. Et donc, je suis pieds nus avec mes cloques dans mes chaussures de rando et je marche dans de l'eau salée. Et ça fait super mal. Et mes chaussures, elles sont toutes ensuite collées de sel. Enfin, c'est très bizarre comme substance. Donc, elles sont désagréables. Et je traverse cette lagune, j'arrive, il y a rien. Et alors, il y a un aéroport de sel qui permet de transporter le sel des exploitations qui se trouve une dizaine de kilomètres plus haut. En fait, j'ai traversé un moment une route et cette route, elle menait à cet aéroport. Et depuis l'endroit où je me trouve tout au sud, j'ai le choix entre le faire en ligne droite et passer sur des croûtes de sel ou alors utiliser les réseaux de routes qui sont des zones un peu aplanies. C'est pas vraiment des routes, il n'y a pas de bitume, mais je pense que c'est des terre-pleins qui passent juste au milieu du désert et aplanissent le tout pour que les voitures puissent passer. Et donc, si je me sers de ce réseau, je dois faire une sorte d'angle droit qui me force à faire 10 km de plus. Et donc, je marche 10 km sans eau. Et avec la douleur que j'ai au pied, en fait, je mets pratiquement 3 heures à le faire. Et sur les dernières minutes, c'est vraiment difficile. Le sac est tout léger, j'ai plus d'eau, j'ai plus de nourriture. J'ai juste mes affaires, donc le sac ne pèse rien, mais mon corps tout entier est super lourd. J'ai chaud, j'ai soif, et en fait, je commence à avoir la tête qui tourne. Et je me dis, bon là, ce serait vraiment bien qu'une voiture passe pas trop loin, me repère et me prenne. Donc je commence à relier la route que j'avais traversée quelques heures plus tôt. Je l'avais dépassé, j'étais allé vers le sud et là je me retrouve pour la première fois de mon aventure à remonter vers le nord. Et il y a un moment, il y a un Chilien, il s'appelle Sébastien, il me voit au loin et il comprend tout de suite. Il s'arrête, j'ai même pas besoin de dire un mot en fait, il ouvre la portière, il me regarde, il prend une bouteille d'eau sur la banquette arrière, il la met sur le siège passager et il me dit « Oula, toi tu t'es perdu, allez monte, on y va ». Et donc je monte et au début je reprends mes esprits et puis je commence à lui expliquer. Et Sébastien, c'est un hyperactif, c'est un Chilien, chef d'entreprise, qui est là en déplacement professionnel, il va à San Pedro de Atacama, et il habite à Antofagasta, et il passait par là, et donc tout d'un coup, en fait, il me ramène à la civilisation en quelques secondes, il appelle ses potes, il parle super fort, j'entends ses potes, il met le kit main libre, donc on entend son pote dans toute la voiture, il lui raconte qu'il a trouvé un mec qui traversait le désert, et il dit « un français, un loco ». Et il n'arrête pas de dire comme ça à son pote que je suis fou. Et en fait, finalement, ça me fait du bien en fait de retrouver la civilisation si vite. Et avec lui, j'ai l'impression de retrouver le monde entier. J'ai l'impression de retrouver un frère, un compagnon d'armes. Et un compagnon de galère finalement, puisque tant qu'on n'est pas arrivé à la ville, tant que j'ai pas pu me doucher, me reposer un peu, bah, je suis toujours un petit peu dans cette galère. Et ça me fait du bien. Et en fait, avec Seb, on va devenir potes. Et je vais passer les jours suivants avec lui à San Pedro de Atacama. Et voilà, et l'aventure, elle se finit comme ça, et en fait, elle se finit à la fois de manière difficile, lente, via cette marche sans eau, dans cette zone aride, et en même temps, elle se finit super vite en une portière qui s'ouvre, et en une gorgée prise dans sa bouteille, je me sens déjà mieux. Et donc voilà, c'était vraiment fabuleux.
Merci beaucoup pour ton récit. Pourquoi t'as voulu raconter ce voyage en particulier ?
Le Salar d'Atacama, c'est vraiment un des voyages qui m'a énormément marqué. Peut-être même plus finalement que le Salar d'Uyuni, qui était ma première expédition et un petit peu mon dépucelage dans le monde, disons, de l'aventure, dans ce monde un peu inconnu et un peu nouveau pour moi. Donc le Salar d'Atacama, c'était vraiment une aventure assez déroutante. C'était un terrain que j'avais pas préparé, je connaissais pas du tout le... Enfin, je pense que pour moi, finalement, même s'il y avait des cartes, même si j'aurais pu cartographier, préparer en amont, trouver des sponsors, avoir de l'équipement de sécurité, finalement, comme je l'ai pas fait comme ça et que j'y suis allé sur un coup de tête et que je connaissais pas du tout la nature géologique du terrain, bah finalement, j'ai un peu revécu une sorte d'expédition, comme une route exploratoire, comme si j'étais le premier homme à découvrir cet endroit du monde. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Finalement, quand on se rend quelque part, si on fait pas de recherche et qu'on y va un peu à l'inconnu, on revient un peu ce qu'ont vécu les conquistadors et voilà. Donc, je dirais que pendant une semaine, j'ai réussi à combattre un peu le drame d'Internet qui est qu'aujourd'hui, on connaît tout, qu'on peut tout voir à l'avance, qu'on peut se renseigner sur tout et qu'il n'y a plus rien à découvrir. En tout cas, il y a très peu de routes aujourd'hui qui sont vraiment à caractère exploratoire où on peut encore faire des découvertes. Mais voilà, pendant une semaine, j'ai vaincu ça en étant naïf et en étant non préparé.
Alors comment à 20 ans on se retrouve à traverser non pas un mais deux déserts en totale autonomie?
Je pense que pour le faire à 20 ans, faut déjà avoir un parcours un petit peu atypique, un peu propre à soi. Avec mes parents, on est parti en expatriation pendant 5 ans à Tokyo. Donc ça a été vraiment une connexion pour moi avec l'international, avec le fait de vivre dans un environnement multiculturel. J'étais au lycée français de Tokyo, qui compte plus de 50 nationalités. Donc j'ai grandi avec des gens qui venaient d'un peu partout. Et pour moi, le voyage, ça a rapidement été une formalité, quelque chose de normal. C'était pas quelque chose d'apeurant, c'était pas stressant, c'était notre quotidien. On rentrait tous les étés en France, voir la famille, et puis on repartait toute l'année à Tokyo. On a un peu voyagé en Asie, peut-être moins que d'autres amis. On n'était pas des baroudeurs nés, mais on a pu profiter un peu. Mes parents sont pas particulièrement voyageurs. En rentrant de Tokyo, on n'a pas particulièrement continué. Mais moi, j'ai senti ce besoin de repartir. J'ai assez mal vécu mon lycée, en fait, parce que je retrouvais pas cet aspect interculturel que j'avais au collège et pendant mon année de seconde, ma dernière année à Tokyo. Et donc, la fin du lycée était un petit peu difficile en banlieue parisienne. J'avais du mal à raconter ma vie à Tokyo aux gens parce que ça paraissait loin de ce que eux connaissaient. Donc, on avait du mal à connecter nos souvenirs et ça a été un peu difficile et en première année d'études supérieures, ça a été une révélation. Dès la première année, en tout cas sur l'année 2018, je suis parti dans 11 pays, la plupart en solitaire. Et en même temps, en première année, j'étais major de promo, donc je bossais même dans les avions et tout. Je me rappelle pendant ma semaine de révision à la fin de mon deuxième semestre, juste avant les partiels, j'avais une semaine de dispo et on était à Dublin en semestre d'échange. Et je suis parti à Flores Island et j'ai révisé, vu que je prenais des vols pas chers, j'avais beaucoup d'escales et donc beaucoup de temps de voyage. J'avais une nuit par exemple à Lisbonne en escale et j'ai passé une nuit dans l'aéroport à faire des fiches pour mes cours. Et je me suis dit que finalement sur mon temps de trajet, si je travaillais et je révisais mes cours, j'aurais travaillé autant que quelqu'un qui travaillera 3 heures par jour pendant 7 jours, donc ce que font mes amis. Et donc après j'ai passé la semaine en randonnée sur l'île. J'ai vraiment passé un bon moment. Et voilà, je sais pas, ça m'a piqué, j'ai continué depuis. Et un jour, le besoin, en tout cas en troisième année d'études, lorsque j'avais 20 ans, le besoin est venu de vivre une vraie expédition. J'avais souvent le nez planté dans les bouquins de Mike Horn ou d'explorateurs comme lui, de Jean-Louis Étienne par exemple, Sylvain Tesson. Et je me suis dit, à un moment, si t'as envie de vivre cette vie-là, faut pas passer sa vie dans les livres à la rêver et à la fantasmer, faut la vivre. Et c'est pas en allant faire une randonnée dans les Vosges comme j'avais fait en première année, ou c'est pas en allant traverser les Pyrénées que je vais vraiment ressentir ce que c'est que une vraie expédition en autonomie dans lesquelles il y a une part de risque où on assume les conséquences. Donc je me suis dit à un moment faut arrêter de feindre les choses et faut y aller, faut les vivre, faut les saisir. Et c'est pour ça que j'ai préparé cette expédition d'abord à Uyuni, puis à Takama, disons malgré moi vu que c'était pas prévu. Et j'ai caché ce projet à mes parents. Il n'y a que ma sœur qui était au courant, ainsi que deux ou trois autres personnes. Je suis allé en parler sur une chaîne de télé locale, et pourtant j'ai caché cette interview à tout le monde, donc c'était assez incohérent finalement, mais voilà, et en fait je suis parti, et pendant une semaine mes parents ont cherché à avoir de mes nouvelles, et moi j'étais sans moyen de communication dans le salar d'Uyuni, J'avais mon téléphone français, mais pas de réseau, pas d'internet, pas de téléphone satellite, donc je pouvais pas les contacter. Et ma sœur a dû avouer mon projet parce que mes parents n'avaient plus de nouvelles de moi depuis une semaine. Ils voulaient appeler l'ambassade de France en Bolivie et lancer des recherches. Et quand je suis sorti du désert, je leur ai dit « Bah, en fait, je viens de traverser un désert et ça s'est super bien passé, c'était cool. »
Surprise.
Surprise. Et je les ai pas prévenus, par contre, que je repartais 9 jours plus tard dans le salar d'Atacama.
Tu disais en micro que tu aimerais professionnaliser tes aventures. Enfin, tu aimerais bien être un aventurier professionnel. Est-ce que tu peux un peu nous en parler ?
Ouais, l'aventure, je pense que c'est plus qu'une passion ou qu'un passe-temps. Ça fait partie de moi au point que ça a toujours été comme ça en cours. J'ai toujours eu besoin de mettre l'aventure au centre de tout, même si ça me demande de réviser dans des avions. Depuis que je suis en études sup, j'ai toujours fait en sorte de faire mes stages à l'étranger. J'ai eu la chance de faire un semestre à Dublin, ensuite un stage dans un hôtel au Panama. Et là, l'année dernière, un semestre en Uruguay, puis un stage dans une agence de tourisme d'aventure au Chili. J'ai tout le temps envie de continuer, donc finalement, je me vois mal faire autre chose que ça. Et donc, ce serait génial, en fait, que ça puisse faire partie de ma vie professionnelle. Après, je sais pas vraiment de quelle manière j'ai envie de professionnaliser ça. Est-ce que c'est par l'écriture? Est-ce que c'est par les documentaires? Est-ce que c'est par les conférences? Est-ce que je vais réussir à en vivre? Je sais pas, peut-être que je serai journaliste dans le monde du voyage. Je vais commencer un stage là-dedans. J'essaie de me former un peu à plein de choses. Au journalisme, j'ai un blog, j'essaie de faire des vidéos, de commencer à écrire, à faire mes premiers films. Et je me dis qu'en multipliant les compétences et en continuant à rencontrer des gens dans ce domaine-là, à monter en compétences, à voyager, ça va s'éclaircir et puis il y a des opportunités qui vont naître et je vais me retrouver à travailler dans ce milieu-là. Le rêve, ce serait d'être explorateur et de vivre de mes aventures. Mais ça peut être en étant chargé de communication chez Decathlon ou dans un magazine et en mettant en avant une marque de sport ou en suivant des sportifs. Voilà, j'ai pas de rêve précis qui fait que si je l'atteins pas, je vais pas être bien. Non, j'ai juste un secteur qui me plaît.
Justement, de quelle manière tu vas documenter et raconter tes voyages? Et est-ce que tu as un médium préféré pour le faire?
J'aime beaucoup la photographie et l'écriture. Je trouve que c'est très poétique. La photographie, je me considère pas encore très bon. J'apprends, mais j'aime bien, ça me plaît. J'ai pas d'objectif particulier ou de prétention. J'essaie pas d'être photographe ou quoi, mais ça me fait plaisir et ça documente un peu mes écrits. Par contre, l'écriture, c'est quelque chose dans lequel je mets beaucoup plus de cœur. Donc voilà, je partage des aventures sur mon blog et des textes. Souvent, ils sont moyennement longs, donc c'est assez rapide à lire. Et j'essaie de commencer à écrire des livres. Je sais pas trop ce que ça va donner, si je vais réussir à les publier, à trouver des maisons d'édition. Si je vais en faire des e-books, les laisser sur mon site ou les laisser traîner dans un placard. Pour le moment, c'est pas trop la finalité qui compte, c'est plus l'acte d'écrire. Et voilà, après les conférences, en ce moment, ça me plaît beaucoup. J'essaie de commencer à en faire et de me former un peu et de voilà d'en proposer à des écoles d'enseignement supérieur. Voilà, j'essaie un petit peu de découvrir, disons, différents moyens de communiquer pour le moment et de partager mes aventures.
Quel que soit le voyage, qu'est-ce que tu vas toujours prendre avec toi dans ton sac?
Alors, je prends quasiment toujours des livres. Je dis quasiment parce que à Uyuni, j'ai pris quelques livres de Paulo Coelho, mais c'était des livres assez ésotériques. Et quand on est au milieu du désert, c'est une phrase, c'est Sylvain Tesson qui en parle dans son livre Dans les forêts de Sibérie, où il dit que l'erreur serait de penser que en ermitage, quand on est seul au fond des bois ou de la nature, on est toujours maintenu à un très haut niveau spirituel, et donc on a toujours envie de lire du Kant ou du Hegel. Et c'est un peu ce que je pensais en partant dans le salar d'Uyuni, que j'allais vivre un truc assez prophétique, une rencontre avec Dieu. Et finalement, il y a des moments très basiques où on s'ennuie. Moi j'avais un caleçon pour la journée, un caleçon pour la nuit, donc on est dans ces affaires un peu crasseuses, on a soif. Du coup voilà, on a envie de lire des choses simples parfois. Il le dit, Sylvain Tesson, il dit « Les après-midi de neige sont longues quand on a Kegel pour s'occuper ». Et voilà, donc j'avais pas la tête à lire du Paulo Coelho, donc du coup j'ai pas lu, je me suis occupé en regardant le paysage, en pensant. Mais globalement, j'ai toujours un bouquin avec moi, et à Atacama, j'en ai pas pris pour juste le poids. Mais voilà, globalement, les bouquins, c'est vraiment j'aime beaucoup lire. Et ma copine, ça l'attriste beaucoup quand on est en rando, parce que par exemple dans les Vosges, dernièrement on a fait une randonnée, il y a des boîtes à livres réparties un peu partout, et moi je prenais un livre dans chaque boîte, donc à la moitié de la rando, je transportais 8 à 10 livres, donc voilà, ça pèse un peu.
Bon, tu mentionnes la rencontre un peu libératoire avec Saint-Sébastien à la fin de ton périple à Atacama. De manière générale, comment tu considères les rencontres en voyage et est-ce que tu gardes contact avec les gens que tu rencontres ?
Alors en voyage, je sais pas pourquoi, mais j'ai des rencontres très providentielles. C'est toujours des rencontres... Alors peut-être que c'est ma manière de les regarder qui diffère, mais c'est toujours des rencontres qui m'aiguillent sur moi-même et sur mon parcours de vie. C'est très impressionnant. Par exemple, je sors du Salar d'Uyuni, il y a une stèle qui représente le symbole Paris-Dakar. Et en fait, c'est parce qu'il y a une édition du Paris-Dakar en Amérique du Sud qui est passée par le Salar d'Uyuni. Et donc, quand j'arrive au village de Lika, je tombe face à cette statue. Sur le moment, ça fait pas tilt, j'y pense pas. Et quelques temps après, je commence à vraiment être fasciné par l'idée de faire Paris-Dakar en autostop. Et c'est assez fou, mais on part avec Justine traverser la France en roller. Elle a terminé l'aventure à vélo parce qu'elle s'est blessée en chemin, mais on arrive à la frontière franco-espagnole. Après 1300 km de roller, c'est un moment assez fou. On arrive au col des Belitres et il y a un gars qui arrive de nulle part, un mec un peu âgé, la soixantaine, on est en plein été, mois d'août, il fait super chaud, il a un bonnet en laine sur la tête, il a la bouche en sang, il a dû chuter un peu avant, mais il arrive comme ça à l'aise et on lui parle et il nous dit « Ouais, je reviens d'un voyage récemment, j'ai fait Paris-Dakar à vélo ». Et c'est un voyage dont je parlais depuis des mois à Justine. Et voilà, c'est ce type de rencontre finalement où c'est la deuxième fois qu'à la fin d'une aventure, je tombe sur un signe qui me parle de Dakar. Et donc, il me fait comprendre que ce sera ma prochaine aventure. Et c'est toujours des rencontres comme ça, qui m'aiguillent. C'est comme Alex dans les Vosges. Je le rencontre et en fait, ça va devenir pendant quelques jours mon professeur de la forêt. Parce que c'était ma première randonnée, je partais dans les Vosges. Et le troisième soir, je tombe sur Alex et on va faire plus de 100 km ensemble à pied. Et en fait, le premier truc qu'il fait quand au premier réveil, c'est qu'il me regarde ranger mon camp et mes 70 litres de bordel. J'avais plein d'accessoires superflus. Et il me dit, bah tiens, ça on va jeter. Et il m'a délesté de la moitié de mon sac. Et en fait, finalement, au début, c'était dur à faire, mais il m'a toujours aiguillé et j'ai toujours eu des rencontres comme ça.
Pour se parler du futur maintenant, quels sont tes futurs projets ?
Ce qui me plairait énormément, ce serait de faire Paris-Dakar en autostop. En solitaire ou avec un ami, je sais pas. En tout cas, j'aimerais beaucoup le faire à la rencontre des gens. Comme on a fait en France avec Justine, où tous les soirs, on sonnait à des portes et on proposait aux gens de... On proposait, c'est un grand mot, mais on demandait aux gens de camper dans leur jardin. Et assez souvent, ils acceptaient et ils nous laissaient même parfois entrer dans la maison. Et on dînait quasiment tous les soirs avec eux, c'était vraiment génial. Et en Patagonie, avec un collègue avec qui je travaillais dans une agence de tourisme d'aventure, on a traversé la Patagonie en autostop et sans argent pendant 2 semaines. Donc on devait trouver des voitures, des lieux où dormir en tente et on devait trouver à manger tous les jours. Et donc au début, Paris-Dakar, je réfléchissais à ce voyage sans argent, vu que certes, il y a la notion d'aller vers les gens et de leur demander des choses dans des régions pauvres, mais des fois, les gens, ils vous passent un bout de pain, et vous allez passer un moment tellement puissant que finalement, je trouve que les rencontres, elles transcendaient un peu cette notion monétaire. Et ce que j'aimais sans argent, c'est qu'on retrouvait cette nature de chasseur-cueilleur où la rencontre devenait nécessaire. On a besoin de l'autre pour avancer. Du coup, on se retrouve forcé d'aller vers l'autre. Et moi, c'est pas mal parce que je voyage beaucoup en solitaire. Je peux être un peu réservé et passer du temps dans mon coin ou aller faire des randos tout seul. Donc, le voyage sans argent, c'était une bonne alternative pour moi pour sortir de ma zone de confort et faire des rencontres. Mais en y repensant, je me suis dit que voilà, je le ferais avec de l'argent et j'irais vers les gens comme on a fait en France, juste en sonnant à leur porte, sans besoin monétaire, sans rapport d'argent, juste pour la rencontre. Après, c'est un voyage qui va s'aiguiller tout seul sur la route, comme toujours.
Écoute, on arrive à la fin de cet entretien. Donc, tu as un petit espace qui t'est réservé où tu peux partager une dernière anecdote, une recommandation, un proverbe, une citation. C'est à toi.
La vie ne devrait être que cela, l'hommage rendu par l'homme à ses rêves d'enfant. Cette phrase de Sylvain Tesson, c'est celle qui me porte le plus dans toute la littérature française. Pour moi, c'est un art de vivre, j'essaie de l'appliquer comme un credo, comme une doctrine tous les jours. Et tous les jours, je m'observe évoluer, m'aguerrir dans mes projets, les préparer de mieux en mieux, mieux communiquer, me professionnaliser. Mais tous les jours, je tâche à rester un enfant et à toujours rêver de manière un peu folle, être un peu naïf. Voilà, faire les choses avec spontanéité et pas trop calculer. Parce que quand on fait des aventures ou des expéditions, ça devient plus qu'un voyage, ça devient un projet. Par exemple, la France en roller, on a trouvé un sponsor, on a été suivi par Decathlon. On fait de la communication, on fait des relations presse, il y a des médias qui en parlent, on communique beaucoup. Donc on sort de cette naïveté et on pense vraiment comme un adulte et on perd cet aspect un peu enfantin qu'on a durant les premiers voyages, les premières randos. On prend le sac à dos, on part dans l'arrière-pays à côté de chez soi, sans prétention, sans stratégie de communication, sans rien. Donc voilà, j'essaie de me faire un peu des voyages comme ça, avec l'âme d'enfant et avec naïveté.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Et voilà, c'était Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Merci également à mon invité pour sa chouette histoire. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre application d'écoute préférée. Vous pouvez aussi écouter Bourlinguer sur la web radio Voyage, Allô la planète. Vous pouvez également suivre le podcast sur Instagram, bourlinguer.podcast. Ah oui, une dernière chose. La musique que vous entendez derrière s'appelle J'ai Bourlingué. Elle a été écrite et interprétée par Serge Raphaël. Merci à lui.